Vous écoutez
RMC.
C'est Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi, à la radio sur RMC, à la télé RMC Story, canal 23 de la TNT. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h avec tout d'abord Charles Magnin. Bonjour Charles.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Nous sommes également avec le journaliste et libraire Jean-Philippe Doux. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
L'ancienne avocate Yael Mellul. Bonjour Yael.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Et puis notre professeur d'histoire géo, Benjamin Hamar, qui a mis son plus beau t-shirt. La révolution sera la floraison de l'humanité.
Vive la commune. C'est Louise Michel.
Ah oui, oui, oui. Oui. Bien. Ah oui. Bah écoutez, très bien.
Mais vous mettez... S'il vous plaît, je peux vous le trouver.
Non. Bah, écoutez, non. Vous savez, j'ai un styliste.
C'est pas un sujet.
Il est très pointilleux sur ce que je porte ou pas, Benjamin. Non, vraiment, gardez vos sous, Benjamin.
Ça aurait été bon cœur.
Oui, bien sûr. Dans un instant, ça va vous faire plaisir. Nous allons parler du patron de Total, votre ami, qui recommande aux ruraux d'acheter des voitures électriques pour faire des économies. Est-ce selon vous du bon sens ou de l'indécence? On en débat avec vous dans un instant au 32-16 à midi et demi. Cette idée d'une association de familles catholiques, rembourser les thérapies conjugales pour éviter les divorces. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous avez déjà fait une thérapie conjugale? Est-ce que ça marche? Eh bien écoutez, là encore, vous nous dites tout. Et puis 13h30, prendre l'avion deux fois par an maximum, bonne ou mauvaise idée? Réagissez également sur le WhatsApp.
Le 06 12 424 424 pour tous vos messages qu'on lit en direct. Et puis je vous rappelle aussi que c'est l'événement sur RMC. Vous jouez pour gagner votre prime de match pendant la Coupe du Monde. Le montant de la prime est actuellement de 67 500 euros. Retenez bien cette somme. Restez bien à l'écoute. Tirage au sort avant 18h aujourd'hui. L'un ou l'une d'entre vous va pouvoir gagner cette somme exceptionnelle.
RMC Estelle Midi.
Midi 6 sur RMC, on démarre Estelle Midi avec le conseil du jour. Et c'est celui de Patrick Pouyanné, le patron de Total, qui recommande aux habitants des zones rurales de passer à la voiture électrique. Pour lui, c'est tout simplement le meilleur moyen de gagner du pouvoir d'achat. Écoutez Patrick Pouyanné lors de la commission des finances de l'Assemblée nationale, c'était hier.
Moi, si j'ai une recommandation à faire aux habitants des zones rurales, c'est aller vers le véhicule électrique. Oui, les zones rurales roule plus pour aller travailler, poser les enfants à l'école le matin, et je sais ce qu'elle est la vie, mais le véhicule électrique, de ce point de vue-là, est un vrai atout. Vous pouvez le charger à votre domicile pendant la nuit, vous faites des économies pendant la journée, tant qu'on n'a pas décidé d'augmenter les taxes sur la recharge de l'électricité des véhicules. Donc je pense que c'est un conseil que je leur donne. Pour moi, il est très adapté. Il est bizarrement aujourd'hui très urbain, et en fait, il est très adapté aux zones rurales.
Et les Français, Charles, qui n'ont pas attendu Patrick Pouyanné pour se ruer sur les voitures électriques.
Ah oui, il y a une vraie ruée sur l'électrique ces derniers mois. Sur les 5 premiers mois de l'année, 185 000 véhicules électriques ont été immatriculés en France. Par rapport à l'an dernier, à la même période, c'est une hausse de 81%. L'électrique qui représente un tiers du marché des voitures neuves en ce moment, avec en tête des ventes au mois de mai le modèle Y de Tesla, suivi de la R5 électrique et du Scénic de Renault. Des ventes évidemment boostées par la flambée des prix des carburants et par les aides du gouvernement, que ce soit le leasing social relancé par le gouvernement ou les différents bonus à l'achat. Le gouvernement qui veut aussi accélérer cette électrification en jouant sur deux leviers. Le prix donc, des aides pour rendre ces véhicules accessibles. L'écart de prix entre l'électrique et le thermique n'a jamais été aussi faible en ce moment chez les concessionnaires. Et puis il y a aussi les craintes sur la recharge. Et là, le gouvernement veut l'installation massive de bornes. Il y en a actuellement un peu plus de 180 000 accessibles au public, sur les aires d'autoroute, dans la rue, sur les parkings. Le gouvernement voudrait passer à 400 000 d'ici 2030. Et il faut y ajouter surtout les 2,5 millions de bornes privées déjà installées, que ce soit chez les particuliers ou dans les entreprises.
Alors, Patrick Pouyanné, qui souhaiterait que les habitants en zone rurale passent à la voiture électrique, c'est du bon sens ou de l'indécence, Yael Mellul?
Ah, c'est de l'indécence totale. C'est-à-dire qu'on a là un monsieur qui assène comme une évidence d'une simplicité, en disant, voilà, allez, la solution pour tout le monde et, surtout pour les ruraux, c'est la voiture électrique. Alors oui, bien sûr. Alors, très bizarrement, j'ai l'impression que la préoccupation principale des ruraux en ce moment, c'est plutôt leur pouvoir d'achat plutôt que de changer leur voiture pour une voiture électrique, parce que leur niveau de vie est absolument catastrophique en fait pour les ruraux. C'est là où on trouve la plus grande précarité. Donc, je trouve que c'est ça la réalité brutale.
Mais c'est là où on se déplace le plus. C'est là où on dépense le plus de carburant.
Mais oui, mais justement, c'est là où on se déplace le plus. C'est là où on a le plus besoin de véhicules et c'est là où on a le moins d'argent.
Ah oui.
Donc,
c'est ce qu'il dit en fait. En fait, il te dit de faire des économies sur la voiture.
La déconnexion, c'est de pouvoir s'imaginer que la ruralité, que les ruraux précaires, quand bien même ils pourraient profiter des aides qui ont le mérite d'exister et qui sont pas du tout négligeables, hein, ça faut pas l'enlever. Bah, malgré ça, ils n'auront pas les moyens d'acheter une voiture électrique aujourd'hui. Et en fait, si vous voulez, c'est la déconnexion, elle est dans le sens où il assène ça comme une évidence et une simplicité face à une situation d'une grande complexité que traverse aujourd'hui nos ruraux, qui sont, de mon point de vue, aujourd'hui, s'il y a des territoires perdus de la République, c'est bien dans la ruralité. Voilà, qui est abandonné. Les agriculteurs, c'est là vraiment où on a la plus grande précarité. Moi, je me mets à la place de cette population et entendre le discours de Pouyanné, mais je descends dans la rue avec le gilet jaune. Hein.
Là, vous m'obligez. Vous m'obligez à défendre Patrick Pouyanné. Mais en fait, je pense que ce que veut dire Patrick Pouyanné, c'est dès lors que tu as besoin d'une nouvelle voiture. Ça peut arriver. Même en zone rurale, tu peux avoir besoin d'une nouvelle voiture. Et ben dans ces cas-là, quand tu réfléchis à acheter une nouvelle voiture, lui, ce qu'il dit, c'est va plutôt vers de l'électrique. Et Charles l'a dit, jamais l'écart a été aussi faible entre l'électrique et du thermique.
J'entends vraiment. Mais je pense que pour ces ruraux précaires, ça reste inabordable et qu'ils vont préférer.
S'ils doivent acheter une voiture, ils vont bien devoir dépenser.
Oui, mais ils vont malgré tout préférer parce qu'ils vont pas avoir le choix, rester avec leur vieille diesel.
Oui, c'est ça.
Voilà, parce que ils n'ont pas le choix.
Et payer 2 euros le litre.
Oui, mais entre payer 2 euros le litre pendant une séquence, plus ou moins longue, et s'endetter pour acheter une bagnole à 40 000 balles, parce que c'est encore, malgré tout, le prix.
La Renault 5, la Renaught 5, elle est à moins de 20 000.
D'accord. J'imagine que dans la ruralité,
D'accord, ok.
Mais dans la ruralité, une R5, je suis pas certaine que ça conviendrait à.
Oui, mais il y a la Dacia électrique aussi.
Alors oui, et puis il y aura les chinoises.
Il y a déjà les Chinoises.
Mais malgré ça, si vous voulez, moi, c'est la simplicité avec laquelle il apporte cette solution, comme si, évidemment, aller acheter une voiture électrique. Oui, mais enfin, j'imagine que s'ils le font pas, c'est qu'ils peuvent pas le faire, en fait.
Voilà. Patrick Pouyanné, ça doit pas l'arranger qu'il y ait plus de voitures électriques et moins de thermiques, parce qu'il gagne quand même plus d'argent sur l'essence que sur l'électrique.
Non. Et c'est ça, Estelle, Total Energy avec un S.
Bah oui.
Non, ils vendent, en fait, c'est moins de 50% maintenant le carburant chez Total. C'est un de ceux qui installe le plus de bornes de recharge partout en France. Donc il dit moi je vous conseille l'électrique. Oui, parce qu'après vous irez recharger chez
bien
moi.
Sûr.
Mais moi il est hors sol. Et moi je suis vraiment furieux contre ce fils de fonctionnaire qui vient de province et qui maintenant a une vision totalement parisienne en disant c'est les ruraux, rechargez votre voiture à votre domicile. Mais venez dans nos villages. Moi j'habite un village en ruralité à côté d'Aix-en-Provence et il y a pas d'agriculteurs, enfin il y en a mais c'est pas les agriculteurs qui habitent là-bas, les agriculteurs. Non, c'est les agriculteurs, c'est moins de 5% de la population. Tout le reste c'est des gens qui habitent dans des maisons de village. Une maison de village, la définition c'est il y a pas de place de parking, il y a pas de prise extérieure. On va garer sa 106 de 1988, sa Clio de 1992 un peu plus loin dans la rue sur des parkings. Mais oui Estelle, c'est ça la réalité. Alors peut-être que pour lui la ruralité c'est là où il va en week-end, peut-être dans le Perche, peut-être à Deauville, peut-être au Touquet, je sais pas où, mais il va pas dans les vrais villages. Le vrai village en fait, ce sont des maisons de village où c'est pas le petit pavillon.
Il y a pas que ça,
c'est pas les longères, il y a pas que ça. Mais moi par exemple, mon village qui fait 8000 habitants, il y a bien au moins 2000 habitants qui sont dans des maisons, dans des appartements.
Et il en reste 6000 autres.
Donc
il en reste une majorité, Jean-Philippe.
Il aurait pu être beaucoup plus nuancé.
Par exemple, vous pourriez passer à l'électrique, vous avez une maison avec
un
garage.
Je peux.
Et vous ne le faites pas.
Éloigné du cœur du village pour avoir un terrain. Les autres sont vraiment dans des maisons sans prise. Alors, et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui?
Il le dit un peu rapidement quand il dit France rurale, il pense France périphérique. La France des lotissements, celle qui habite à 5, 10, 15
kilomètres. C'est pas la ruralité.
Et
l'autre chose, c'est que moi, je vois de plus en plus de rallonges qui descendent du deuxième étage, des rallonges domestiques qui ne sont pas du tout adaptées. Il faut des rallonges d'un calibre de 2,5 mm. Vous pouvez pas prendre une rallonge chez vous et puis brancher votre voiture parce que ça chauffe, parce que ça devient un danger. Donc moi, il y a deux bornes pour 8000 habitants dans mon village. Non, la ruralité ne peut pas passer à l'électrique. En tout cas, pas maintenant. Et puis que celui qui derrière nous vend la recharge avec ses bornes nous dise je vous conseille de passer à l'électrique parce que chez Total Energy, on va vous vendre le la la recharge.
En fait, alors, je sais pas, vous avez mal écouté ce qu'on, l'extrait qu'on vous a passé, parce que justement, il dit l'inverse. Il dit aujourd'hui, les gens, en fait, ça sert à rien d'installer des bornes partout en France, puisque les gens se chargent la plupart du temps chez eux. Donc en fait, pour le coup, là, c'est contre-productif.
Alors
pour
qu'ils viennent dans les villages. Mais, qu'ils viennent dans les villages voir la vraie réalité.
Oui, mais regarde,
la réalité.
Tu viens de dire 8000 habitants dans ton village, 6000 qui pourraient s'équiper, donc plus de la majorité. Bah, peut-être que ces 6000-là, évidemment, les 2000, comme tu le dis, qui vivent dans des immeubles, bah, ils peuvent pas. Quand tu peux pas, tu peux pas. On va pas aller inventer. Mais ceux qui peuvent... Il pourrait peut-être réfléchir, c'est ça que je veux dire.
Moi, j'aimerais bien qu'on s'entende sur ceux qui peuvent. Honnêtement, cette phrase-là, allez-vous mettre à l'électrique, c'est is the new, allez manger de la brioche de Marie-Antoinette. Mais franchement, c'est la même chose. C'est la même déconnexion. Moi, quand j'ai entendu ça, les bras m'en tombent. Honnêtement, on dit les prix ont baissé, mais il y a des aides. Mais attendez, les aides, c'est essentiellement sur le neuf. L'électrique neuf, c'est autour, prix en moyenne, 30-35 000. Voilà. L'occasion, c'est autour de 20 000, mais sur l'occasion, il y a moins d'aide. Mais attendez, mais qui est capable, en France, aujourd'hui, de nous lâcher 30 à 35 000 euros? C'est ça la question.
Que là, donc, il y a du leasing. Il y a une autre réalité, c'est que là, voilà, il y a très peu de voitures électriques achetées. Cash,
c'est
essentiellement des gens qui payent des loyers de 200-300 euros par mois.
Charles, même le leasing. Il y a un chiffre qui est tombé là récemment. Un travailleur pauvre sur deux saute des repas pour nourrir ses enfants. Oui. Mais de quoi on parle? Dans la ruralité, effectivement, comme l'a dit Yaël, il y a des tas de gens qui sont dans une mouise incroyable. Et on leur dit, tranquillou bilou, les gars, mais mettez-vous à l'électrique. Mais attends,
mais ils payent leur diesel 2 euros le litre, ils payent des réparations sur leur bagnole.
Mais écoute-moi, tu les sors comment? J'entends. Les 20 à 35 000? Les gens, ils te disent, moi autour de moi, les gens, quand je leur parle de ça, ils me disent, mais je les sors comment les 20 à 35 000? Je peux pas. Et en fait, les élites économiques, les élites politiques, les élites médiatiques ne comprennent rien à l'état social du pays. Donc, dire aux gens, vous savez, ça me rappelle quoi? Pendant la crise du pouvoir d'achat avec l'explosion des prix de l'énergie, les guignolos qui, à l'antenne, disait aux gens, mais laissez vos pattes chauffer, éteignez, ça va continuer à cuire. Mais on délire, en fait. On délire. On est, dans l'hyperespace. On est dans l'hyperespace avec des guignols qui viennent raconter ça et d'autres qui les commentent. Franchement, pour le coup, on peut paraphraser Finkielkraut. Taisez-vous, Pouyanné. Ah non, c'est Georges Marchais. Taisez-vous, Pouyanné. Voilà, c'est clairement ce qu'il faut leur faire savoir.
Alors,
ce genre d'analyse, on peut s'en passer largement.
Alors, désolé pour vous, mais on a quand même pas mal d'auditeurs qui habitent dans des zones rurales et qui voulaient témoigner. On a par exemple Philippe qui nous appelle de Saint-Maurice-la-Clouère dans la Vienne. Il est technicien. Bonjour Philippe.
Bonjour tout le monde.
Bonjour. Alors Philippe, vous êtes, voilà ce que Patrick Pouyanné appelle un rural.
Rogui, là, Jean-Philippe
et Benjamin.
Ils m'ont tapé dessus. Je me protégeais. Enfin, voilà, moi je fais partie des gens qui sont à 200% satisfaits de la voiture électrique.
Vous avez quoi comme voiture, Philippe?
Alors, d'abord, on a installé avec mon épouse aux environs 3 600-3 700 euros par mois, à deux.
D'accord.
Voilà, on est.
Donc vous gagnez moins de 2000 euros chacun par mois.
Voilà, exactement. On a une Spring, donc c'est le premier prix. Je voulais une voiture premier prix qui a une autonomie entre l'hiver où il fait vraiment moins 2, moins 3 à 180 km, il était en ce moment 270. Donc ça me fait 99% de mes déplacements avec mon épouse, on les fait avec la Spring.
D'accord.
On a une voiture,
une
voiture thermique à 205 000 km. On s'en sert pour aller voir quand il faut faire
pour 300, les longs trajets.
Km, voilà, pour les longs trajets. Donc on s'en sert pratiquement pas. On la recharge. Alors, faut savoir que la Spring, on peut la recharger sur une prise 16 ampères, puisque
c'est
10 ampères. 10 ampères. Donc, moi, j'arrive à la maison, tac, je branche dans le garage. Mm-hmm. J'ai un petit, j'ai pas de prise de machin, de truc. De
ça vous coûte combien pour 100 km, Philippe?
Alors, 100 km, 1,85€.
Ah, évidemment, donc c'est évidemment moins cher.
Évidemment.
Et alors, attendez, parce que c'est important. En fait, depuis tout à l'heure, Benjamin Hiel nous dit, mais les Français n'ont pas 30 000 euros à sortir. On est d'accord qu'aujourd'hui, les Français achètent en leasing.
Je suis tout à fait d'accord.
Il y a des, vous payez combien par mois de leasing, Philippe?
Alors, moi, je paye 190 euros de leasing. J'économise à peu près 80 euros de carburant. Elle me revient à 80 euros par mois. Et dans le hameau que j'habite, bon, c'est, on n'est pas pauvre, hein, faut arrêter, hein, c'est pas la misère, hein. Voilà, c'est pas la misère ici. Mais effectivement, vous parliez Renault 5, vous parlez de voitures 400 km d'autonomie. C'est complètement à côté. Une petite, alors déjà, j'ai horreur du terme petite voiture électrique citadine.
Oui, bien sûr. Ben.
C'est pour le périurbain et les ruraux. Il faut pouvoir la charger chez soi. Parce que recharger sur une borne, ça revient au même prix qu'une thermique.
Ouais, ça revient un petit peu moins cher, mais effectivement, voilà. c'est ce qu'a dit Jean-Philippe. L'idéal, c'est de pouvoir recharger chez soi, même avec une prise domestique. Merci beaucoup, Philippe, en tout cas de ce coup de fil. Voilà, Philippe qui gagne moins de 2000 euros par mois, mais qui a acheté effectivement une Dacia Spring électrique et ça lui revient à 90 euros par mois. Merci, Philippe. On a Darrel également de Prunay en Yvelines, dans les Yvelines. Donc Darrel, il est steward. Bonjour Darrel.
Oui, bonjour Estelle, bonjour à tous.
Prunay en Yvelines, combien d'habitants?
Alors c'est à peu près 900 habitants grosso modo.
D'accord.
Rien, il n'y a pas de boulangerie, rien, il y a juste l'école et la mairie.
D'accord.
Et voilà, c'est un tout petit village, hein, mais moi pour le coup, je vais jusqu'à l'aéroport d'Orly, on va dire entre 8 et 10 fois dans le mois, allez, disons même 15 quand je travaillais l'an dernier pour une compagnie précédemment.
Ouais.
Je suis en électrique depuis 4 ans bientôt. La location nous revient à 360 euros. On a pris des véhicules SUV. Hein. Moi et madame, on a le même véhicule. Et on charge à la maison. Donc, on a fait installer une borne qui nous a coûté 1000 euros à peu près. La charge nous revient par voiture, sachant qu'en voiture, on a 320 km d'autonomie. Globalement, on est sur du, en heure creuse, à 7 euros, je dirais, puisqu'on n'a même pas 14 centimes du kilowattheure. Donc, c'est,
C'est 7 euros pour 320 km?
C'est ça. En fait, moi, mon contrat EDF, je suis possédé EDF, hein, bien sûr. On est sur 0,13 centimes 40 le kilowattheure en heure creuse. Donc moi, je cherche qu'en heure creuse. Donc, typiquement, de minuit à 6h du matin, ma voiture charge. Et pareil, l'après-midi, je vais de 15h à 17h. Donc effectivement, en termes de d'achat pur, 15 000-20 000 euros, même plus, les gens n'ont pas forcément les moyens. Moi, j'étais vendeur automobile juste avant, donc je connais parfaitement. Et en fin de compte, aujourd'hui, en passant en location, les gens, ils devraient juste faire le calcul. Ok, combien je paye d'essence par mois? 300 euros, 400 euros, peu importe. Vous le ramenez en location, ça va vous faire quoi? 200 euros par mois?
Bah, c'est pas mal quand même.
Plus d'électricité à la maison? Bien sûr. Mais aujourd'hui, quand vous payez 300-400 euros par mois d'essence, juste l'essence, hein, pas la voiture ni rien, bah, autant aller sur un véhicule. Typiquement, c'est ce que je parlais. En véhicule d'occasion, vous avez pas mal de véhicules entre 8 et 12 000 euros. C'est simple. Un véhicule à 10 000 euros, vous l'amenez sur 5 ans en crédit classique, ça vous fait 200 euros par mois. Vous le branchez à la maison. Vous rajoutez 30 à 40 euros d'électricité pour des gens qui roulent beaucoup. Hein. Moi, je fais 120 km par jour. Okay, ça ne me coûte rien du tout. Donc, je ne comprends même pas pourquoi les gens se prennent la tête à parler de véhicules à 30, 40 000 euros. Mais ce qui compte, c'est le budget mensuel, l'utilisation que vous en avez, tout simplement.
Bah on est d'accord, mais c'est vrai que voilà, il faut que les mentalités changent et il faut qu'effectivement on apprenne à payer en fait à réfléchir en mensuel et pas en fait, si
je peux permettre une dernière Charles question, je sais pas si Darrel est encore avec nous, mais moi j'hésite justement sur la voiture et j'ai l'impression que l'argument qui pourrait me faire basculer, c'est qu'il y a aussi des frais auxquels on ne pense pas, c'est l'entretien. Moi, j'ai rendu ma voiture thermique, je l'ai revendue, j'en pouvais plus parce que j'avais tout le temps une vidange, un entretien, etc. Et voilà, tous ceux qui autour de moi me disent je roule à l'électrique, me disent mais ça coûte beaucoup moins cher. Est-ce que c'est vrai, Darrel, à l'usage, sur le temps, que ça coûte moins cher en entretien?
Mais écoutez, ça fait 4 ans que j'ai la voiture pour 73 000 km à peu près. J'ai pas changé de pneus ni de plaquettes ni de disque, bien entendu. Par an, la révision me revient à 180 euros. Et encore, c'est parce que je la fais chez MG, je pourrais payer moins cher ailleurs. Ouais, en fait, ça me coûte absolument rien. Là, je vais repartir sur des véhicules électriques en novembre. On va carrément changer, on prendra du coup une des plus grandes marques connues qui existe aujourd'hui en occasion. Et on prendra soit du coup leasing social, soit du coup un véhicule en occasion pour la deuxième voiture. Mais enfin, je comprends même pas qu'il y a encore un débat là-dessus. Si je peux me permettre.
Je vous assure, Darrel, j'ai le sondage sous les yeux. Oui. On peut donner les chiffres, hein, pour l'instant.
Allez, mais je vous le dévoile. On vous demande si c'est indécent ou du bon sens ce que dit Patrick Pouyanné, qui recommande aux ruraux de passer à l'électrique. Vous êtes 71% pour l'instant à estimer que c'est complètement indécent.
Merci, Darrel, en tout cas, pour ce coup de fil. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir des retours d'expérience de gens qui sont concernés par le discours de Patrick Pouyanné. Et peut-être aussi qu'il va falloir réfléchir réfléchir différemment. Est-ce qu'en tout cas, ces témoignages qu'on a entendus, Benjamin, vous ont fait réfléchir?
Non, parce que je vous le dis.
Mais attendez,
excusez-moi, je veux pas être désagréable avec Darrel, mais il est steward. Donc je veux dire, du point de vue des CSP, on n'a pas en France.
C'est marrant,
les gens qui sont en
le témoignage de Philippe qui lui gagne moins de 2 000 euros par mois, donc
oui, non mais attendez, il a dit Philippe que ils étaient à deux, ils gagnent 4 000 euros à deux, et qu'ils avaient pris le plus petit modèle, c'est-à-dire un petit modèle de citadine. Attendez, mais ça c'est le prix de base. Si vous avez une famille derrière, vous devez prendre vous devez prendre un autre modèle et vous montez là à 300, à 400. Je veux dire, c'est même si c'est mensualisé.
Ça veut dire que vous habitez à la campagne, souvent quand vous êtes en couple, vous avez deux voitures parce que
Vous gardez votre vieille voiture
thermique et vous prenez une électrique.
Et sur le budget, si vous avez 4000 balles de budget au départ, et ben si vous montez à 400-450 euros, c'est lourd. Mais vous savez, les gens, si vous répondent à 70%, moi, en tant que syndicaliste, j'ai coutume de dire que les salariés sont des experts de leur quotidien. Ce ne sont pas des âmes battées qui font des choix débiles et déconnectés. Ils savent très bien quelle est la réalité, ils se renseignent. Et aujourd'hui, dire aux gens, allez-y, prenez de l'électrique, c'est la panacée, c'est se foutre du monde.
On verra, dans un an, nous aurons le même débat et on verra si vous avez changé d'avis. Aujourd'hui, jamais les ventes n'ont été aussi fortes.
Mais de qui? Mais moi, j'aimerais bien voir.
Vous avez déjà entendu quelqu'un qui vous disait qu'il était déçu de sa voiture électrique?
Mais non, moi, je vous ai dit, mais j'ai jamais dit ça. Je vous dis que pour les gens, la majorité des gens, c'est inaccessible financièrement. Voilà. Et parmi cette explosion qui reste quand même au total assez à la marge, j'aimerais bien avoir l'analyse sociologique.
Ah, oui.
Qui fait ça? Moi, je vous le dis, c'est les classes supérieures et les classes moyennes supérieures.
Le leasing social qui aide. Parce qu'on peut avoir une Super 5 à 250 euros par mois, etc. Mais encore une fois, le postulat de base, c'est de pouvoir charger à la maison. Et la ruralité ne peut pas toujours charger à la maison. C'est frais supplémentaires.
Voilà.
Et quand on dit 190 euros par mois, on oublie que le premier loyer, c'est souvent plusieurs milliers d'euros.
Exactement.
Donc là, c'est pareil pour une thermique.
Il y en a beaucoup qui ne changent pas. Moi, je viens à Paris une à deux fois par semaine, grâce à vous. Je ne vois jamais autant de voitures neuves qu'à Paris. Quand je suis chez moi en province, c'est chez moi que je vois toutes les vieilles voitures, toutes les Clio. Je vois plus jamais une Clio à Paris. En revanche, j'en vois beaucoup du côté de chez moi, des Twingo, ces voitures d'un autre temps, parce que les gens sont obligés de continuer avec. Parce qu'à un moment, le changement de voiture, c'est un luxe.
Mais bien sûr.
C'est un luxe. On le fait que quand on est vraiment, quand on est à 250 000 kilomètres.
Alors, pour aller dans votre sens, on a Kevin qui nous appelle d'Oradour-sur-Glane. Il est commercial. Bonjour, Kevin.
Oui, bonjour tout le monde. Merci de vous recevoir.
Écoutez, Kevin, vous n'êtes pas forcément d'accord avec Patrick Pouyanné, quoi. Pas prêt à passer à l'électrique?
Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je trouve que on a des personnes qui dirigent le pays qui disent tout et son contraire parce qu'il y a encore.
Alors, ils ne dirigent pas encore le pays.
Ils ne dirigent pas encore le pays, mais bon, c'est quand même des gens qui font des lois, qui proposent des lois pour qu'elles aillent dans leur sens. Problème, c'est qu'il y a quelques années, on nous expliquait qu'il fallait absolument arrêter l'essence, qu'il fallait passer au gasoil parce que le gasoil c'était génial. Maintenant, on arrête le gasoil pour nous dire, il faut passer à l'électrique c'est génial. Sauf que l'électrique, moi, c'est pas possible. Je suis pas célibataire. J'ai une maison. J'ai 2500 euros de salaire. Donc, moi, autant vous dire que, les primes, j'y ai pas accès. Je n'ai accès à rien du tout. J'ai 1400 euros de prélèvement par mois entre les crédits, les assurances, le foot, la cantine, la garderie, etc., etc., etc. Comment je vais trouver l'argent pour passer à l'électrique?
Mais si vous deviez changer de voiture, Kevin, là j'ai bien compris, vous pouvez pas changer de voiture, ok. Mais si vous deviez changer de voiture, est-ce que, en tout cas, vous auriez cette réflexion?
Mais non, pas du tout, absolument pas. En plus, on nous balade avec l'électrique. On nous balade de A jusqu'à Z. Alors, on nous vante les mérites et la propreté de l'électrique, mais le lithium, le cobalt, pour l'extraire, il faut quoi? Il faut du gasoil, il faut de l'eau. Il faut du gasoil, il faut de l'eau. C'est ça le prix de notre propreté, c'est d'extraire du lithium avec des millions de litres cubes d'eau par jour, des milliers de litres de gasoil, de laisser des gamins en Afrique extraire le cobalt à main nue pour 50 centimes par jour. C'est ça le prix de notre écologie. Moi, je suis désolé. Moi, je veux bien entendre beaucoup de choses, mais j'aime pas qu'on me prenne pour un imbécile. Et moi, j'ai l'impression qu'on nous prend systématiquement pour des imbéciles en permanence.
Merci.
Donc,
en tout cas,
j'entends tous les arguments, mais bon, moi, je suis pas pour. Je suis clairement pas pour.
Écoutez, vous nous le dites, sur RMC. Merci pour ce coup de gueule, Kevin. Et il y a quand même une petite phrase dans tout ce qu'a dit Patrick Pouyanné qui dit: pour l'instant, c'est beaucoup moins cher. C'est bien pour le pouvoir d'achat. tant qu'ils ne mettent pas de taxes sur l'électrique.
Il dit même tant que vous ne mettez pas, parce qu'il était auditionné à l'Assemblée, donc ça reste aux députés. Il dit, pour l'instant, c'est rentable.
Le diable est dans les détails.
Tant que vous n'y touchez pas.
Et puis, je rappelle que ceux qui, en réalité, vont passer à l'électrique, ils vont dire, oh, c'est sympa. Quand ils vont partir en vacances, où est-ce qu'ils vont recharger leur voiture électrique? Dans des stations Total.
Parce que moi, je croyais qu'ils n'avaient pas du tout d'argent, donc ils ne doivent pas partir en vacances tous les mois.
Ils ont quand même le droit de partir en vacances.
Oui, d'accord, mais si c'est. Mais bien sûr, mais si c'est une fois par an, en même temps, tu peux pas. Tu ne peux pas acheter une voiture juste pour les vacances.
Mais ce sont
ça,
les futurs clients de Total. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il est
une
juge
fois par
et parti.
Deux fois par an.
Bah oui, bah toutes les stations Total, ils les attendent.
Mais avant ils allaient acheter de l'essence chez Total. Donc, de toutes les manières, c'est, oui, c'est la même
et
chose.
Il veut les garder.
Alors, les propos de Patrick Pouyanné, le PDG de Total, qui recommande aux ruraux de passer à l'électrique. Est-ce que c'est indécent ou est-ce que c'est du bon sens? Vous répondez que c'est indécent à 71% finalement.
Dans un instant, on change totalement de sujet. Faut-il ou pas rembourser les thérapies conjugales? C'est une demande d'une association pour éviter les divorces. Parce que oui, les divorces, ça coûte très cher à la société. Dites-nous si vous avez ou pas fait une thérapie conjugale et si ça a sauvé votre couple. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Midi 34, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Grosse ambiance sur le plateau aujourd'hui, et il n'est que midi 34.
Ambiance électrique.
Avec Charles Magnin, Jean-Philippe Douillet, Mélul et Benjamin Hamard. Et on poursuit tout de suite Estelle Midi avec le chiffre du jour. Écoutez bien, selon un sondage publié par les associations familiales catholiques, 72% des Français ont vécu une rupture ces 10 dernières années après une relation longue. Et pour éviter ces séparations, eh bien les associations préconisent notamment un remboursement des thérapies de couple pour éviter de divorcer. Ça peut sembler totalement loufoque, Charles, mais en fait, c'est très sérieux.
Oui, dans ce sondage OpinionWay, 34% des personnes qui se sont séparées estiment que cette rupture aurait pu être évitée. Le sondage s'est donc penché sur les causes de ces séparations. Numéro 1, la différence des projets de vie et de valeurs. Autrement dit, des couples qui n'auraient pas pris suffisamment le temps de se connaître avant de s'installer ensemble. Deuxième cause, le manque de communication au sein du couple. C'est pourquoi les AFC, les associations familiales catholiques, font cette proposition que la CAF, la Caisse d'allocation familiale, puisse rembourser des séances de conseil conjugal lorsqu'un couple rencontre des difficultés. Ils se basent sur un exemple, le Danemark, où les deux tiers des communes qui financent ces séances de conseil conjugal pour éviter les divorces, et bien dans ces communes, le taux de séparation a baissé de 17% en l'espace de 8 ans. Ce serait, disent les AFC, une manière de donner un signal clair que la société, que l'État se préoccupe du bien-être des couples et prend soin d'eux. Rappelons qu'en France, selon l'INSEE, environ 44 à 45% des mariages se terminent par un divorce.
Et il faut dire que les divorces, ça coûte très cher à la société parce que ça appauvrit évidemment les couples. Alors, rembourser les thérapies conjugales pour ou contre, Yael Mélul?
Absolument contre.
Ah bon?
Absolument contre.
Vous avez déjà fait une thérapie conjugale?
J'ai déjà fait, oui, j'en ai déjà fait. Tu guindes, elle servit absolument à rien, mais très courte, hein, très très courte, hein, vraiment. Mais c'est non, mais voilà, c'est histoire de se dire aussi, voilà, on aura tout fait, on est allé au bout, et il n'y a plus rien à faire. Non, moi, je suis absolument contre cette proposition, surtout parce qu'elle émane des associations familiales catholiques, en fait. Et ce que je sens en réalité, c'est que cette proposition, elle semble davantage motivée par une idéologie plutôt que par un souci on va dire, de santé publique. Voilà. Donc, je vais quand même rappeler que le divorce, par consentement mutuel, ne date pas d'il y a 1000 ans. Hein. Il a été créé en 1975. Oui. Donc, c'est un peu hier. Hein. Et qu'à la base, c'est quand même un outil d'émancipation et d'égalité femmes-hommes. Oui. Que de permettre aussi de sortir de ce contrat qui n'est pas indissoluble. Hein. C'est pas un contrat éternel. Oui. D'accord. Donc, moi, je n'aime pas l'idée selon laquelle on pourrait considérer qu'une thérapie, parce qu'elle est gratuite, serait là pour faire non, perdurer.
C'est pour que des gens puissent y avoir accès aujourd'hui.
Oui, mais
c'est surtout les urbains aisés
C'est l'idéologie, moi, qui est derrière, qui me gêne.
Mais
en
parce
fait,
que ça voilà. Et surtout, c'est préjudiciable aux femmes, le divorce.
Oui, mais regardez la première cause de séparation, ça va être la différence de projet de vie et de valeur.
Ils ont oublié l'infidélité quand même là-dedans.
Bah oui, mais
elle, elle est citée dans 9% des cas. C'est marginal.
La différence de projet de vie.
Oui, Estelle, c'est marginal.
Eh ben, ça m'étonne beaucoup. Hein, pardon, mais.
C'est pas aussi, le quotidien de tout le monde, Estelle.
À mon avis, ils n'osent pas dire.
Les chiffres, Charles.
Attention, c'est du déclaratif.
Oui, voilà, c'est ça. Ils n'osent pas dire.
Et c'est famille catholique, donc c'est pas hyper bien vu non plus.
C'est au confessionnal.
Oui, c'est pas là où tu dis j'ai trompé ma femme.
On n'a pas fouillé tous les textos de tout le monde.
La différence de projet de vie, la différence des valeurs, l'absence de communication, je veux dire, c'est rédhibitoire dans un couple.
Bon, on va
dire, quand on n'arrive pas à communiquer, c'est incompatibilité, hein, voilà, c'est incompatible.
Mais
qu'on n'a pas la même vista sur la vie qu'on veut avoir ensemble et qu'on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a rien à faire ensemble.
Oui. Et ce que dit cette association, c'est qu'il faudrait peut-être mieux aussi réfléchir avant.
Mais voilà, c'est plus ça en fait.
Alors, c'est l'autre proposition. Ils disent qu'il faudrait, un peu comme ça se fait dans l'Église catholique, avant un mariage, une préparation des couples obligatoire à la mairie et même pour les PACS. Ils disent, voilà, avant d'enregistrer un PACS, il faudrait qu'il y ait des séances avec éventuellement un officier d'état civil qui explique au couple, attention, une union, c'est des hauts, des bas, c'est un engagement dans la durée, etc. Avoir un petit mot là-dessus, sur dire que c'est pas anodin de se paxer ou de se marier.
Même quand tu te paxes pour les impôts? Non, je rigole, Charles. Jean-Philippe Doux, est-ce que vous avez déjà eu recours à une thérapie de couple?
Oui. Mais alors, généralement, pour moi, une thérapie de couple, quand on y arrive, c'est que c'est trop tard. En fait, c'est que les symptômes sont déjà là. Et
c'est
que,
le dernier truc, quoi.
Bon, est-ce que ça marchait? Non, parce qu'on est séparés depuis 6 ans. Mais je suis aussi contre le remboursement. Je suis pour le fait de sauver des couples, mais c'est peut-être pas à nous de payer ces thérapies.
Tu payes après des allocations familiales plus grandes, de toutes les manières, tu payes.
Oui, c'est vrai que tu payes dans un certain sens, mais tu sais ce que tu payes. Là, le thérapeute de couple ou la thérapeute, je sais pas vraiment ce que c'est en fait. Il faudrait vraiment bien définir cette catégorie.
Il y a des diplômes de médicale. Psychologue clinicien, oui.
Oui, existe. Mais pas de couple. Est-ce qu'il y a une spécialité? Ou en tout cas, un petit peu comme les ostéopathes qui ont dû, avant de pouvoir être remboursés par les mutuelles, montrer ce que c'était qu'un vrai ostéopathe. Qu'est-ce qu'un thérapeute de couple? Est-ce que c'est...
C'est une psy qui a suivi une spécialisation, j'imagine.
Oui, mais parfois c'est juste une psychologue qui donc a fait elle juste un petit traitement psychologique. Enfin,
c'est clinicien. C'est pas la même chose que psychothérapeute.
Ouais. Voilà. Si elle vous donne juste des pierres de couple.
Madame Ferrari pourrait peut-être nous donner des pierres.
Pas, hein.
C'est pas de l'astrologie. Hein.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un thérapeute de couple? Enfin, moi, je trouve ça assez nébuleux. Et en plus, si on commence à rembourser ça, mais on va rembourser tout le reste. Alors, enfin, on va rembourser.
C'est un peu déjà ce qui se passe.
Je suis pas d'accord avec mon mari. Il veut une électrique. Moi, je veux une thermique. Du coup, je suis en conflit. Donc je vais prendre une séance, merci de me rembourser. On met le doigt, je trouve, on a déjà le bras dedans, mais là on rajoute encore un peu le côté l'État va vous rembourser vos petits soins.
En fait, c'est pour que ça coûte moins cher à l'État. Vous pensez bien qu'à un moment c'est pragmatique, c'est... tout ça.
Alors si ça marche, ok, et si ça marche pas,
ce soit la motivation première des associations familiales catholiques. Je suis pas certaine.
Et en effet, il vaut mieux se préparer avant. Alors la préparation au mariage, je l'ai faite aussi dans un contexte catholique. Et c'est vrai que quand on a, alors moi je l'aimais bien, mais quand on a le curé de la paroisse qui vous explique ce que c'est que de vivre en couple et ce que c'est que de se marier, c'est un peu léger quand même comme préparation.
Oui,
donc c'est pas et alors, compliqué.
Il paraît que ce n'est plus ça. Voilà, on me dit dans l'oreillette quelqu'un qui vient de se marier.
Oui.
Ce
sont d'autres couples mariés qui sont bien fidèles à la paroisse qui vous dire que oui, bon.
Ouais. Benjamin Marie, faut ou pas rembourser les thérapies de couple?
Alors,
éviter que ce soit que les citadins qui y aillent, quoi.
Non, mais le truc, c'est que, je rebondis dans ce que, par rapport à ce que disait Yaël. C'est-à-dire que, ça vient aussi de la part, d'associations qui ont, un biais sur le mariage. Parce qu'il y a une autre option, il y a une autre solution qui est proposée. C'est le fait d'accentuer les différences entre le mariage, le pacte et l'union libre pour valoriser le mariage. Donc vous voyez bien qu'on a une orientation sur une vision de la société dans laquelle le mariage serait promu par rapport à d'autres formes d'union. Et ça, moi, je suis totalement contre. Je suis totalement contre que on accentue les différences de droits acquis par le mariage ou le pacte, par exemple.
Mais est-ce que c'est une mauvaise solution, ça?
Oui, alors
on va faire
de celle-là, pardon, mais moi je veux bien, moi je ne fais pas partie de ceux qui disent on rembourse tout, etc. Pas du tout. On a un modèle social qui est bien pensé, mais on est dans une situation où il y a le bas blesse beaucoup sur des sujets urgents. Et tu parlais tout à l'heure, Estelle, du fait que ça vise, par exemple, la ruralité. Mais dans la ruralité, il y a des exigences et des besoins tout autres. Il y a, par exemple, la situation des hôpitaux et des services publics. L'éloignement des hôpitaux. La situation, par exemple, des urgences psychiatriques. La situation de la psychiatrie en France.
Mais
si on a de l'argent à mettre, faut les mettre sur les sujets d'urgence, là où il y a le plus de besoins, là où la casse des services publics et la crise des services publics est beaucoup plus forte, bien plus que sur ça. Moi, je ne remets pas en cause le bien fondé ou l'intérêt de ces thérapies de couple. Mais je dis, quand on voit la situation, par exemple, de la psychiatrie en France, bonjour, il y a des besoins là. Là, il y a besoin d'argent.
Ouais. On a le témoignage de Jérôme qui nous appelle d'Étoiles sur Rhône, dans la Drôme. Il est artisan et il a déjà fait une thérapie de couple. Ça a marché, Jérôme ?
Bonjour, non, pas du tout,
Mais, ça marche jamais.
Oui, j'ai l'impression.
En fait, pas trop, en fait, quand tu dois te préparer, je crois. Et après, moi, je suis pas d'accord de rembourser, parce qu'en France, on doit tout rembourser, quoi. À chaque fois, c'est les gens qui doivent payer pour rembourser. Moi, j'ai divorcé, je demande pas qu'on me rembourse, je sais pas, j'arrive pas à comprendre qu'en France, il faut que tout que ce soit remboursé. Que les gens payent, on paye la sécu pour rembourser si, ça, pour faire un bébé, faut payer, faut rembourser, et si, et. Les gars, vous divorcez, ou mesdames ou messieurs, et voilà.
Oui, mais regardez, Jérôme, et vous avez dû vous appauvrir après votre divorce, et votre épouse aussi, j'imagine.
Comment ?
Vous êtes peut-être moins riche après votre divorce qu'avant.
Ouais, on va dire, peut-être pas, non.
Votre épouse s'est appauvrie, Jérôme.
Oui, peut-être elle, moi, non.
Voilà, Jérôme, voilà. Voilà pourquoi est-ce qu'on essaie de rembourser.
C'est un banquier, pas un thérapeute.
Pour que madame ne s'appauvrisse pas, vous voyez.
Oui, mais bon, après, voilà, on va demander les pensions. Donc, on va demander à la sécu de payer la pension. Après, si, après, en France, on veut toujours tout rembourser. Arrêtez un peu. J'arrive pas. C'est ce truc remboursé que les autres payent pour moi. J'ai pas besoin que quelqu'un paye. Je divorce. Alors on va payer les divorces. Ils vont payer les frais d'avocat. Ok, alors il faudrait se faire rembourser parce que ça coûte plus cher, ça. Je sais pas.
Bon, en tout cas, on vous sent très sceptique sur le sujet, Jérôme. Vous avez refait votre vie, Jérôme ?
Non. Ah bon. Mais c'est pas plus mal, on va dire.
On sent que c'est un doigt qui s'est bien passé. Merci Jérôme, en tout cas, d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. Et on vous a posé la question sur le compte Twitter de l'émission.
Oui, rembourser les thérapies conjugales, est-ce que vous êtes pour ou contre ? Ah, vous êtes clairement contre, à 89%.
Bah oui. Et continuez quand même à nous écrire sur le WhatsApp et dites-nous, on aimerait savoir s'il y a déjà une thérapie de couple qui a marché ou pas. Ah, oui. Parce qu'on a quand même l'impression que c'est quand t'es en fin de vie, quoi. T'es en fin de vie de couple et tu dis bon, essayons ça, tout essayé et puis après
mais j'ai quand même Daniel qui nous dit Daniel nous dit pourquoi pas rembourser les thérapies de couple. Mais dans ce cas-là, si ensuite le couple divorce, il rend les sous.
Rend l'argent.
Non, mais si quelqu'un a réussi sa thérapie de couple, vraiment qu'il nous appelle. Parce que...
Bien sûr. Enfin, si et qu'il nous explique ce qui s'est passé. Bon. Dans un instant, écoutez, alors ça c'est formidable. Anthony Morel, on n'arrête pas le progrès. Anthony Morel qui va nous expliquer comment, grâce à la nouvelle technologie, on peut vivre plus longtemps en bonne santé. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 12h50, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, et tout de suite c'est Anthony Morel, on n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Anthony, nous continuons de flâner dans les allées du salon Vivatech, le plus grand rendez-vous de l'innovation en Europe qui se tient en ce moment à Paris. On parle évidemment de nouvelles technologies. Et parmi les nouvelles technologies qui vous ont tapé dans l'œil, il y a celles qui permettent de nous aider à vivre plus longtemps et surtout en meilleure santé.
Oui, alors taper dans l'œil, c'est la bonne expression, puisque je vais vous parler de lentilles, en l'occurrence. C'est l'une des innovations qui m'ont le plus impressionné, ou le plus intrigué, en tout cas, sur ce salon. En gros, alors les lentilles, bon, ça sert à mieux voir. Bon, ça, c'est déjà acquis.
Merci, Anthony.
Mais les lentilles du futur, elles feront bien plus que ça. Elles seront capables de détecter et de suivre au quotidien un certain nombre de maladies. Là, c'est une start-up qui s'appelle Xpanseo qui a mis au point ces lentilles, donc ils sont bardés de petits capteurs électroniques et qui vont tout au long de la journée analyser tout un tas de choses. Par exemple, la glycémie pour les patients diabétiques, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. On va pouvoir analyser à partir de vos larmes, du liquide lacrymal, le taux de sucre en fonction de ce que vous êtes en train de manger. Par exemple, on va pouvoir voir quasiment en temps réel les pics, donc ça va être extrêmement intéressant. On va pouvoir analyser aussi la pression dans l'œil, ça c'est très important.
Ah bah oui,
c'est
bah
les
oui.
signes avant-coureurs, vous savez, de maladies comme le glaucome, par exemple. Donc, on va pouvoir très en amont prendre certaines maladies de l'œil. Et puis, le soir, quand on va se coucher, eh bien, on va les mettre dans un petit boîtier et ça va analyser tout un tas de choses. Là encore, l'apparition de certaines maladies, des traces de médicaments, si vous avez bien pris vos médicaments, s'ils font bien effet. Tout ça va pouvoir être analysé par ces lentilles. Et alors, le deuxième effet qui se coule, c'est qu'en plus de tout ça, vous avez des fonctionnalités de réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir projeter dans votre champ de vision. Je vais souvent parler des lunettes façon Google Glass. Bah là, c'est un peu la même chose, mais directement dans des lentilles. C'est-à-dire qu'on a réussi à miniaturiser cette technologie. C'est optionnel après.
Mais oui, c'est pas des jetables du coup.
Non, alors c'est pas des. Alors, si vous êtes très très riche, ça peut être des jetables, mais ça fait un budget quoi mensuel. Alors je vous le cache pas. Parce que là, pour le coup, vous pouvez afficher. Alors ça peut être votre rythme cardiaque, ça peut être les flèches du GPS.
Enfin, t'imagines, tu te balades avec ton rythme cardiaque là devant l'œil, c'est horrible.
Pas, bah, quand tu es en train de courir.
Mais quand tu cours, bah tu regardes ta montre comme tout le monde.
C'est beaucoup mieux de l'avoir dans le champ de vision.
Voilà. C'est horrible. Mais dans l'œil, franchement.
Non mais le GPS dans l'œil, c'est GPS évidemment.
Enfin, ça veut dire qu'en fait, vous êtes en plein date, vous avez pas de GPS et vous avez toujours la petite flèche là
en plein date, il y a beaucoup mieux parce que en plein date, ça veut dire que vous êtes en train de discuter et l'IA va pouvoir vous donner les arguments à avancer directement dans le champ de vision.
Il y a pas de
la réponse à toutes les questions, mais bon voilà.
Quel enfer.
Non mais attendez, restons sur les fonctionnalités de santé. Là, ce dont je viens de vous parler.
Oui, restons là-dessus.
C'est optionnel, c'est en plus vous n'avez pas l'obligation de vous mettre un truc dans l'œil qui vous projette des informations. On est d'accord, personne ne vous a mis un couteau sous la gorge, donc vous n'êtes pas obligé. Mais pour les fonctions de santé, pour le coup, je pense que ça va être un truc assez révolutionnaire. Alors, ce n'est pas encore sorti, hein, on est vraiment en phase expérimentale. C'est l'intérêt de ces grands salons technologiques de voir un petit peu le monde de demain.
Alors, l'idée derrière ça, Anthony, c'est une idée formidable. C'est d'augmenter notre longévité.
Voilà, et notre longévité en bonne santé. Ah bah oui. Ça, c'est évidemment l'essentiel. Alors, il y a eu plein d'innovations comme ça sur le salon. Il y a un truc qui va vous plaire, je suis sûr. Ça va arriver bientôt en Europe. C'est déjà sorti en Asie et aux États-Unis.
Ça me plaît.
C'est un test qui permet de vous donner l'âge de vos organes et de vous donner des conseils pour rajeunir vos organes.
Voilà. Mais ma montre fait ça.
Alors, oui, mais.
Ma montre, elle me donne mon âge biologique.
Voilà, l'âge biologique.
La dernière fois, elle m'a dit 29 ans. Je peux te dire, j'étais contente de mon achat.
Elle est extrêmement réaliste. Moi, elle m'a donné, je sais plus où elle est, c'est ça. Non, mais c'est vrai que ça le fait. Alors, ça vous donne un âge général biologique avec des données qui sont pas non plus hyper précises sur les montres. On va pas se mentir. Là, ça va plus loin. Parce que vous allez recevoir un petit boîtier à la maison. Vous faites une prise de sang, d'accord? Donc, tout est dans la boîte, hein. Vous le renvoyez à ce laboratoire. Donc, ça s'appelle Generation Lab. Et ils vont analyser 460 biomarqueurs qui concernent 19 organes différents. Et à partir de ça, on va vous faire une sorte de check-up. Alors, ça, je savais que ça allait vous plaire.
Ah oui,
une sorte de carte de bulletin scolaire, si on peut dire. Voilà, de votre foie, de vos poumons, de vos artères. Et en fonction de ça, on va vous donner des conseils. Alors bon, les conseils, ça va être faut mieux manger, faut faire du sport, en gros, bon, on le sait, hein, c'est pas.
Oui,
disons que ça va plus être une sorte d'électrochoc pour vous montrer un petit peu où vous en êtes, si vous voulez.
Mais on est encore une fois une arnaque. On
mais non, Charles,
il y a un mec dans un bureau qui met un âge au pif.
Mais n'importe quoi.
Le foie 72.
Fais tourner une roulette. Allez, lui 63.
Mais vous prendre une option et vous gagnez 10 ans.
Mais vous n'aimez pas la science.
Non, mais je suis d'accord, il y a un risque, c'est tout à fait exact. Après, bon, c'est déjà sorti aux États-Unis. En Asie, ça a l'air de plutôt bien fonctionner pour l'instant.
Mais c'est un check-up en fait. On peut voir si on a une maladie ou.
C'est la médecine prédictive
ça
en fait.
Donne, voilà, c'est ça. C'est plus, si tu veux, c'est l'état de tes organes à partir de certains biomarqueurs. Après, ça ne remplace évidemment pas une consultation médicale. Ça peut te donner des indications et peut-être aussi indiquer il faut aller voir le médecin parce que là, effectivement, ton foie à 72 ans.
88 ans.
Et ça te dit aussi les maladies que tu risques le plus d'avoir en fonction de ces organes qui sont touchés.
Évidemment, c'est aussi l'un des intérêts. Donc, effectivement, santé préventive voire prédictive, c'est l'une des grandes tendances évidemment de la santé de demain.
C'est combien?
Ça coûte, c'est pas donné, ça coûte autour de 450 €.
Allez. Non,
ah ouais. Bah voilà, bah oui, bah oui.
Pour Jean-Pierre Doigouillet qui nous répond, vous avez 48 ans.
Excusez-moi, si je peux gagner 10 ans d'espérance de vie, je vais le faire tout de suite, pardon.
Voilà. Elle a déjà passé commande pendant la chronique.
Oui,
là,
oui. Voilà. J'allais dire, tant qu'il y a des gogos prêts à payer.
En vrai, je crois que je l'ai déjà fait. Parce que mais bon, l'un des enjeux également, bien sûr, Anthony, pour vivre plus longtemps, c'est le dépistage du cancer.
On a le temps pour en parler.
Mais très rapido.
Très bien. Alors, bon, je vais vous parler juste d'une innovation qui est géniale.
génial aussi, c'est un test pour le papillomavirus. C'est un autotest qui a été sorti par une start-up italienne qui s'appelle papilio.bio. Donc là, en gros, c'est vous recevez un test et vous le faites directement à la maison, un peu comme les autotests Covid. C'est pour favoriser les autodiagnostics parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se font pas
vacciner. Aussi se faire vacciner, quand même.
Non, mais bien sûr. Non, mais encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. Mais ça permet
aussi se faire vacciner et vacciner ses enfants.
Absolument, absolument.
Voilà, pour éviter les cancers de l'utérus. L'Australie, ils sont vaccinés et en fait, il y a quasiment plus de cancers de l'utérus. Merci beaucoup, Anthony Morel, en tout cas d'avoir été avec nous et de nous avoir expliqué comment mieux vivre. Enfin, peut-être. Vivre plus longtemps et en bonne santé. Merci beaucoup. Anthony, dans un instant, le zapping, le meilleur de l'actu sur RMC. On va se demander si nous sommes à la ramasse face à la canicule. Je pense que j'ai déjà la réponse. Et puis, combien de fois regardez-vous votre téléphone au travail, le smartphone au travail? C'est un vrai fléau. À tout de suite.
RMC. Retrouvez Estelle Midi en podcast sur l'appli RMC et sur rmc.fr.